Bonsoir à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Hors Piste, c'est d'abord une rencontre. Pendant une heure, on va essayer d'approfondir la personnalité de ces hommes, ces femmes que l'on connaît, mais dont au final, on ne sait pas grand-chose. Premier numéro, et un invité, un parrain qui n'aime pas parler, ça commence mal, surtout quand il s'agit de parler de lui, mais quelqu'un qu'on a envie d'entendre et qui a accepté ce soir d'emprunter avec nous les chemins de traverse, de se livrer. Il a fait rêver la France du foot pendant des années, puis il s'est frotté à une carrière plus politique, une carrière de dirigeant où les tacles se font par derrière. Michel Platini est dans Hors Piste.
Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter.
Le plus beau jour de ma vie a été le 22 juin 72 quand je me suis présenté à la Saint-Lorraine pour jouer au football. La boucle est bouclée, oui. Je suis parti de Nancy, un bon club dans lequel on s'est vraiment amusé. À Saint-Etienne, le meilleur club français, la Juventus, le meilleur club du monde. Donc après la Juventus, il n'y avait plus rien.
Il était un petit peu trop lymphatique, il ne travaillait pas trop, mais enfin, disons que depuis qu'il se met à travailler, il fait effort là-dessus.
Michel, c'était le meilleur joueur français qui arrivait dans le meilleur club français. Pour moi, le meilleur milieu de terrain de l'équipe de France, ça a été en 82, avec Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana et Bernard Gingini. On appelait l'équipe de France le petit Brésil, enfin le Brésil européen.
Elected as UEFA president with a mandate of 4 years is Monsieur Platini Michel.
Et quand on avait connu le Platini joueur et le Platini sélectionneur, c'était quelqu'un d'assez à l'humeur assez changeante, parfois assez bougon, qui tenait pas beaucoup en place.
Il avait non seulement le talent des pieds, mais de comportement, comme je disais, et il dit bonjour monsieur à tout le monde. Et là, un quart d'heure de jeu, Henri Michel, qui était le capitaine et qui tirait les coups francs, pose le ballon pour tirer un coup franc à 25 mètres, il vient et dit donne-le-moi.
J'ai remarqué que tous les journalistes qui étaient là, notamment brésiliens, eh bien leur seul intérêt, c'était pas pour moi, c'était pour Platini.
Dépossédé du ballon pour Platini, peut-être le but. Oui ! Et un but réussi par Platini.
Platini, sur le terrain, c'était un patron. Et on se demandait ce qu'il pourrait faire après sa carrière. Mais après sa carrière, il est devenu un patron. Il a été le patron de l'équipe de France puisqu'il a été sélectionneur. Il a été patron de la Coupe du Monde organisée en France. Il en était le président. Et puis aujourd'hui, il est patron de l'UEFA. Il en est le président. Sa vie est un roman. Je dirais, sa vie est un roman.
Le football est bien du moment qu'on est sur le terrain et qu'on joue. Avant, après, ça devient trop crispant. Pas crispant, ça devient trop, je sais pas, malsain.
Il n'a pas le tempérament à boire du rablabla.
Quand Michel Platini a soif, pour se désaltérer, il boit fruité. C'est bon, c'est aux fruits.
Fruité, c'est plus musclé.
Alors évidemment, on retient cette publicité pour fruité, mais aussi sa vie est un roman. Votre vie est un roman dont on va tourner les pages. Bonsoir Michel Platini.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté d'être le tout premier invité de Hors Piste.
Pourtant, j'ai pas fait de ski, hein, Hors Piste.
C'est vrai, mais il n'est jamais trop tard pour s'y mettre.
Oh, voilà.
Et pour changer de vie. On vient de revivre en accéléré une partie de votre carrière et qu'on aime le foot ou pas, on voit bien que cette carrière, elle a d'abord été faite d'émotions. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais d'abord, nous sommes chez vous, à Cassis. Pourquoi Cassis?
Parce que j'ai décidé il y a quelques mois, avec ma famille, de revenir au pays. Beaucoup de voyages, d'errances. Et puis voilà, je pense que le moment est revenu de se poser quelque part. Et j'ai une maison ici depuis 40 ans et donc on est venu s'installer ici.
La pandémie est moins pénible au soleil ?
La pandémie est beaucoup moins pénible au soleil.
Ouais. Elle a changé quoi pour vous, cette pandémie ?
Elle a changé beaucoup de choses par rapport à ce qui est important dans ma vie. Je pense que la pandémie, pour nous, les générations qui ont connu pas de guerre, pas tout ça, c'était la première fois qu'on était confronté à un problème mondial, un problème difficile, un problème de où beaucoup de gens sont partis. Je crois qu'il y a plus de 4 millions de morts dans le monde. Et ça m'a fait, pour nous, notre génération, ça m'a fait prendre conscience que il n'y avait pas que le foot pour moi et qu'il y avait d'autres choses à voir, et notamment la santé du monde, la gestion du monde, comment on peut vivre dans un monde meilleur avec une pandémie qui fait du mal à tout le monde et qui tue des gens.
Ça a remis le foot à une place plus...
Oh, complètement, oui.
Discrète?
Oui. Beaucoup plus discrète, oui.
Plus arrière?
Plus arrière, oui. Ouais. Oui.
Bon, alors avant Cassis, il y a eu le 7 rue Saint-Exupéry. Elle vous évoque quoi, cette adresse, Michel Platini?
Bah, la maison dans laquelle j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi dans le Café des Sports d'abord, pendant jusqu'à 6 ans. Ensuite, dans une rue qui était formidable parce que c'était une rue où c'était bouché à la fin, donc il n'y a pas beaucoup de voitures qui passaient.
On est à Jeuf.
On est à Jeuf, oui. Et donc, on pouvait un peu jouer au football dans la rue.
Vous rêviez déjà de foot à ce moment-là?
Je rêvais du jeu, oui, mais pas de la carrière que j'allais faire, ouais. Puisqu'on savait même pas que ça existait.
Il y avait là-bas une porte de garage, comme il y en a beaucoup, qui a joué un rôle important dans l'histoire du foot français, visiblement.
La porte de garage était le but, quoi. Vous savez, j'étais quelqu'un qui essayait de marquer des buts le plus possible, et donc j'étais attiré par la porte du garage. Bah, elle était fermée. Hein.
donc les buts ne rentraient pas.
Les buts rentraient, mais ça faisait du bruit.
Un de vos amis avec qui j'ai discuté pour préparer cet entretien m'a dit « Michel, c'est un enfant ». Ça veut dire quoi ?
Je suis pas un enfant, mais j'essaye d'avoir un esprit positif, l'esprit des jeunes qui sont plutôt insouciants. Je suis plutôt quelqu'un qui voit le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Je crois que c'est mon éducation, c'est ma famille, c'est mes parents qui m'ont amené à croire qu'il y a une fatalité et puis bon, qu'on vit pour mourir. Et qu'on vit, on essaye de faire sa vie le mieux possible. Mais à la fin, on meurt tous. Donc, voilà. Et donc, j'ai toujours essayé d'avoir un esprit peut-être enfant par rapport aux responsabilités où je les trouve bénignes par rapport à des gens qui sont beaucoup peut-être plus sensibles et que pour eux, c'est un drame. Pour moi, c'est un événement comme un autre. On essaye de s'en sortir. C'est un match de foot pratiquement qu'on essaye de gagner.
Il y a un côté rien n'est grave dans la vie chez vous?
Je dirais qu'à part la santé de ses proches et la mort de ses proches, il n'y a pas grand-chose qui est grave. Quoi.
Michel Platini, que dirait, à votre avis aujourd'hui, ce petit bonhomme qui jouait au foot contre la porte de garage à Jeuf, à l'homme que vous êtes devenu?
Ben, raconte-moi. Raconte-moi, moi qui suis un passionné de football, comment ça se passe dans le football aujourd'hui? Je dirais, je serais un peu embêté parce que le football d'aujourd'hui ne correspond pas du tout au football... que j'étais quand j'étais un petit bonhomme.
On va avoir l'occasion d'y revenir. En tout cas, vous avez la réputation d'avoir sale caractère.
Oui.
C'est justifié ou pas, ça? Ou c'est une
apparence? Ça dépend avec qui. C'est une apparence. Ça dépend avec qui. Oui, je vous aime bien, donc je n'aurai pas sale caractère.
En tout cas, vous êtes un boudeur. Vous avez toujours été un peu boudeur.
Non, je dirais que mon plus gros défaut, c'est la mauvaise foi. J'ai une mauvaise foi, mais très positif. Une mauvaise foi positive. Une mauvaise foi par jeu, plus que par vraiment... conviction.
Parler de mauvaise foi positive, c'est de la mauvaise foi dans la mauvaise foi.
Voilà, tout à fait.
C'est un double étage,
oui,
quand même.
Tout à fait. Mais ce qui est formidable, c'est que les gens qui me connaissent n'ont pas de problème, et ceux qui me connaissent pas, ça crée des problèmes.
Il y a quelques mois, Canal+ vous a consacré un documentaire. Ça s'appelait Michel Platini, le dernier romantique. Romantique Platini?
Oui, je crois, oui. Oui, par rapport à ma passion qui est le football, oui, je vois le football d'un côté romantisme, je le vois sur une façon que c'est un jeu.
Ouais.
Bon, ensuite, j'étais pas romantique devant le but parce que j'étais plutôt tueur devant le but parce que j'essayais d'être concret, de marquer des buts et de faire gagner mon équipe.
C'est un peu le paradoxe, Platini. Il y a chez vous un côté idéaliste.
Gémeaux, moi.
Hein, l'amour du jeu pur, le refus de la vidéo pour laisser l'humain décider, parfois se tromper. Comment on peut être à la fois un compétiteur comme vous l'avez toujours été et un idéaliste comme vous l'êtes?
Ben, on est un idéaliste dans la façon de vivre, la façon de penser. Et puis après, on est un compétiteur en fonction des événements, en fonction du système, en fonction des choses. C'est très difficile je pense que c'est très difficile pour des gens de prendre des décisions. Je pense que le système qui est autour de nous nous amène à prendre des décisions. Ouais. Et c'est très compliqué pour les grands hommes de pouvoir prendre des décisions qui sont bien. C'est toujours le système qui t'incite à prendre des décisions, comme la politique, quoi. Hein. Les hommes politiques prennent des décisions en fonction des intuitions ou des votes des gens. Hein.
Et pas le contraire.
Oui, entre autres.
Ouais. En tout cas, c'est vous, les Bleus de 1984, qui avez offert le tout premier titre de l'histoire de l'équipe de France de foot. Vous remportez l'Euro en battant l'Espagne en finale au Parc des Princes à Paris. Vous marquez. Hein. Nous sommes le 27 juin 1984 et ce soir-là, c'est Jacques Vendroux qui nous fait vivre ça à la radio.
Voilà, c'est terminé. L'équipe de France de football est championne d'Europe. Le football, c'est extraordinaire. Tous les joueurs de l'équipe de France sont en train de s'embrasser sur la pelouse.
Je vous vois sourire en réécoutant ça, Michel Platini.
Oui, parce que Jacques dit 10 fois qu'on est champion d'Europe. C'est vrai que on a été la première équipe qui a gagné quelque chose. Et je crois qu'on a été adulé parce que On était dans un monde dont le sport n'était pas grand-chose. Et tous les gens du football, et dont notamment la presse sportive, avaient souffert du fait que pendant 20 ans, il n'y avait aucun résultat. Donc on a été les premiers à donner une grande fierté, non seulement à tous les amoureux du football, mais aussi à la presse du football. Et donc des gens comme Thierry Roland, Jacques Vendroux, Eugène Saccomano, Guy Kedja, tous ces gens qui ont fait la promotion du football à la radio, ils ont eu une grande joie quand on a finalement gagné quelque chose.
C'est curieux parce qu'on a l'impression que vous êtes plus heureux pour eux aujourd'hui en reparlant de ça que pour vous à l'époque qui avez soulevé la coupe.
Oui, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que moi je sortais de la Juventus, on a gagné la Coupe d'Europe, on avait beaucoup de choses à faire. Et en 84, je pense aussi qu'on avait une très très belle équipe, comme en 82, comme en 78. On avait des bons footballeurs, on avait des super footballeurs, mais on gagnait pas. Et donc c'est la première victoire d'un sport collectif en France et c'est quelque chose à marquer d'une pierre blanche.
Une pierre blanche. Quelle trace vous espérez laisser dans l'histoire de votre sport, Michel Platini ?
Je m'en fous. Je m'en moque.
C'est vrai ?
Oui, complètement, oui. Dans le sport, je m'en moque complètement. Mais quand je vois les gens... quand je suis revenu dans une vie normale maintenant. Hein, quand je vois les gens que je fréquente, que je ne fréquentais pas avant, et qui me disent merci, et merci pour les émotions que vous nous avez données. Bon, c'est pas des personnes très jeunes qui me disent ça, hein. C'est pas les enfants, hein. Et donc c'est ça qui me, je pense que c'est pas les titres qui font la renommée d'un sportif à la fin de sa carrière. C'est le charisme qu'il a laissé et les émotions qu'il a créées aux gens.
Alors depuis cette victoire en 84 à l'Euro, l'équipe de France a été deux fois championne du monde. Elle a gagné l'Euro en 2000. Elle a voué un culte à Zidane. Elle vénère aujourd'hui Mbappé. En oubliant finalement peut-être un peu votre génération, certains de vos collègues de l'époque en éprouvent une petite tristesse, voire parfois une petite aigreur. Jamais vous ?
Non, pas du tout.
Jamais.
Non. On n'a jamais eu ni de tristesse, ni de jalousie, ni
pas
d'aigreur.
Pas de sentiment de petite injustice.
Non, jamais. Non, l'injustice, oui, par rapport au match de 82.
On en reparlera.
Au match de 86, ouais. Oui, bien sûr, une injustice, parce que je pense qu'en 86, on aurait dû gagner la Coupe du Monde. On était la meilleure équipe du monde à l'époque, au Mexique. Mais donc, non, pas d'injustice, pas d'aigreur. On est tous été contents que la France soit deux fois championne du monde. Mais il faut se souvenir d'où on vient, qui ont été les premiers à le faire. Qui a organisé le football dans les années 70 pour que la France ait des centres de formation? Il y a eu trois personnages qui ont été très importants pour le football et eux laisseront une trace indélébile dans l'histoire du football français. C'est Fernand Sas, Michel Hidalgo et Georges Boulogne. Ouais. Voilà, c'est eux qui ont repris le football en main dans les années 70 et qui ont créé toutes ces terrains de foot, ces centres de formation qui ont fait que aujourd'hui la France fait partie des grandes nations du sport, voire du football et du football surtout.
Est-ce que le foot d'aujourd'hui est le même sport que celui que vous avez aimé? Vous avez quel rapport avec
le foot? C'est le même jeu, oui, c'est le même jeu.
Et c'est pas le même sport?
C'est différent, c'est complètement différent.
Mais qu'est-ce qu'il y a de différent?
Ce qui est différent, je parle du sport professionnel, hein, dans le sport amateur, dans le sport de tous les jours, dans le sport des villages, c'est la même chose. Mais le sport professionnel a beaucoup changé. Aujourd'hui, les gamins rentrent à 10 ans dans les centres de formation, ou 11 ans, nous on rentrait à 18, 19, 17, 20 ans, quoi. On n'était pas formés pour jouer, maintenant ils sont formés, ils sont professionnels. Et donc, d'ailleurs, vous voyez que le football est nettement meilleur qu'à mon époque. Ouais. Les footballeurs sont meilleurs en moyenne qu'à notre époque.
Mais il a la même âme qu'à votre époque ou pas?
C'est différent. Aujourd'hui, je pense que c'est plus un grand show, c'est plus un grand business, c'est plus un grand barnum. Mais bon, c'est comme ça. Je vous ai dit, on ne peut rien, même si on essaye de le protéger, c'est le système qui est plus fort que nous.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a eu deux choses qui ont changé, beaucoup de choses dans le football. C'est l'arrivée des télévisions privées qui ont mis beaucoup d'argent et puis Larry Bosman qui a fait que n'importe quel club peut acheter tout le monde, quoi.
Ouais.
Et donc à partir de ce moment-là, l'argent devient celui qui a plus d'argent peut avoir les meilleurs joueurs, alors qu'avant il fallait qu'il les forme, ce qui est un peu plus différent.
C'est pas encore tout à fait la mi-temps, Michel Platini, mais on va marquer une petite pause, le temps d'écouter Cassidy.
Mais le train est déjà arrivé.
France Inter, hors piste.
C'était Souterrain de Cassidy, alias Pauline Le Keniec. Michel Platini n'est pas dans le souterrain, mais il est dans hors piste aujourd'hui. Et je vous en remercie d'autant plus, Michel Platini, que les interviews de journalistes, c'est pas trop votre passion, je crois. Pourquoi ?
Si, mais répondre à des faits bien précis, oui, mais s'exprimer pendant une heure, non.
Ça tombe mal, alors on est mal barré.
Oui, vous êtes mal barré, oui.
Il y a un problème de confiance ? Confiance envers la presse ou confiance...
Non, c'est par rapport à moi. On m'a toujours considéré comme un footballeur, pas forcément comme quelqu'un qui s'exprime bien, qui parle. Après, maintenant, aujourd'hui, la télévision, la communication, c'est des beaux parleurs. Quand vous suivez toutes les chaînes d'information, ce sont des gens qui parlent bien et j'ai toujours eu un complexe par rapport à ça.
Vous êtes complexé ?
Par rapport à ça, oui.
Ouais. Pourquoi ?
Bon, parce que vous savez, dans mon époque, quand même, les gens qui jouent au football, c'était des sportifs. Les sportifs n'avaient pas été à l'école. Et ceux qui n'ont pas été à l'école ne pouvaient pas rivaliser avec les gens qui avaient été à l'école. Mais ça, j'ai eu un peu de traumatisme dans ma
Et
ma
vous jeunesse. Le portez encore aujourd'hui ?
Un peu moins.
Mais ça n'a pas complètement disparu.
Non, parce que j'ai quand même l'expérience de la communication. C'est pas le premier interview que j'ai fait, Monsieur Souto.
En 1987, à propos d'interview, vous avez accepté d'être interviewé non pas par une journaliste, mais par une écrivaine pour Libération. Et ce jour-là, face à vous, il y a Marguerite Duras.
Pour vous, un match de football, qu'est-ce que c'est ? C'est un très beau rituel ? C'est autre chose ?
Non, je me bats avec eux. Non, je suis...
Vous vous identifiez aux
gens ? Ah oui, alors je hurle. Je sors de la pièce, je sors du salon, je reviens, je supporte pas, quoi. Parce que ça me passionne complètement.
Vous avez l'air tous les deux très heureux de la rencontre et presque complices, je dirais.
Youpi !
Oui ou non ?
C'est vrai. Ben moi, c'est très enrichissant pour moi de voir des personnes comme Marguerite Duras qui sont connues mondialement d'une autre façon que moi. Hein, parce qu'elle raconte, elle fait des romans, elle explique, elle fait vivre des gens. Et nous, on fait aussi vivre des gens, on fait du spectacle, on donne du rêve aux enfants, on donne tout ça. Donc on a à peu près le même côté artiste, mais nous, on ne le sait pas. Elle le sait. C'est une différence.
Quel souvenir vous gardez, Michel Platini, de cette rencontre avec Marguerite Duras ?
C'était important. Vous savez, j'étais un peu au début de beaucoup de choses pour le football. Donc la rencontre des artistes, la crédibilité du football, la publicité, la télévision. Et c'est pas moi personnellement, mais c'était la période qui le voulait. Bon, avec Marguerite Duras, c'était fabuleux pour des sportifs de rencontrer des gens comme Bernard Pivot, comme Marguerite Duras, qui nous prennent pas que pour des abrutis sportifs. Ouais. Et on avait ce traumatisme-là, parce que personne ne parlait de sport. Les présidents de la République, jusqu'à Sarkozy, ne parlaient pas trop de foot. Mitterrand, Giscard, Chirac ne parlaient pas de sport.
Ouais.
Ils aimaient, mais ils n'en parlaient pas. C'était pas de bon ton de parler de sport. Et donc, Marguerite Duras, c'était une belle rencontre, mais il fallait que je comprenne la question. Ouais. Il faut que je comprenais les questions, je pouvais répondre.
On se dit que c'est un peu casse-gueule pour un footballeur complexé, comme vous le disiez tout à l'heure, d'aller se confronter à Marguerite Duras. Surtout que vous disiez à l'époque, je collectionne les fautes d'orthographe, je n'ouvre jamais un livre.
Moi, j'avais mes avocats, elle avait ses conseils. donc voilà. Non, c'était bien, c'était différent, et c'était pas bon, vous avez loupé le but là, vous avez marqué. Quel but là ? Qu'est-ce que vous pensez d'avoir gagné ? On a gagné, je suis content d'avoir gagné. Non, c'était quelque chose de nouveau, d'intéressant.
Et là, vous êtes un peu ambassadeur du sport, en fait. Vous voulez faire avancer le sport et faire comprendre...
C'est ce qu'on devient automatiquement. Ouais. On est capitaine de l'équipe de France, on est obligé de faire avancer les choses, on est obligé de faire avancer ses copains, on est obligé de faire avancer ce sport qu'on aime. Et bon, ça fait partie des choses qui sont pas contraignantes, qui sont un peu plus compliquées. Mais
moi, je crois que ça vous plaisait. Et que derrière le côté provoque, je fais des fautes et je lis rien, il y a un petit côté pas si con.
Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est de provoquer, ouais, plutôt.
On vous a entendu dire avec Marguerite Duras, elle raconte, nous on fait du spectacle, on donne du rêve aux enfants, on a à peu près le même côté artiste, mais nous on le sait pas.
Oui. Ben, s'il n'y a pas des gens comme eux qui mettent en valeur ce qu'on fait, c'est terminé. S'il n'y a pas des gens, un jour quand Thierry Gilardi est décédé, j'ai dit, mais Thierry Gilardi, il a même fait croire qu'on était des bons footballeurs.
Ouais.
Donc c'est pareil, s'il n'y a pas la presse qui raconte ce qu'on est, bien sûr avec ses défauts et ses qualités, mais on n'existe pas.
Les enfants, ils ont besoin d'idoles. Vous avez été l'idole de nombreuses générations d'enfants. Vous en avez, vous, des idoles ou pas ?
Ben, moi, j'ai admiré Pelé.
Ouais.
Après, j'ai eu mon idole, c'était Johan Cruyff. Ouais. Mais ça, j'étais un peu plus grand.
La première rencontre, c'est pas très bien passé, il paraît, avec Johan Cruyff.
Ben, je lui dis, non, c'était pas terrible. Parce que j'étais invité à son jubilé.
Ouais.
On était parti avec Patrick Battiston. Je vais à son jubilé, puis je suis arrivé pour me présenter. Bonjour, je suis Michel Platini. Je fumais sa cigarette, et je crois qu'il m'a même pas regardé.
Ouais.
Mais après, on est devenu très copains. Je lui dis, ah, mon idole, etc.
Ça vous a vexé ou pas, selon
vous? Pas du tout.
Non, vous avez pas dit quand même, je suis Platini, quoi.
Non. J'étais rien par rapport à Cruyff. Ouais. J'étais un gamin, c'était tout jeune.
Parmi ceux que vous admirez, comme vous, d'origine italienne, il y a un certain Lino Ventura. Oui. Écoutez-le en 1982, c'est sur la RTS.
Vous êtes arrivé en France, je crois, à 8 ans. Né à Parme.
Oui.
Un 14 juillet, c'est superbe, ça. C'est un 14 juillet.
Oui, exactement. Oui.
Vous avez ressenti la condition d'émigrer dans les premières années?
Ah, fichtre, oui.
Vous avez ressenti le racisme aussi?
Racisme, je ne sais plus, parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, ce mot racisme. Je l'ai appris bien tard. Mais la condition d'émigrer, oui, je l'ai senti, et très fortement même. C'est d'ailleurs ce qui m'a... ça a marqué beaucoup ma vie, ça. C'est pour ça que je suis, si vous voulez, aussi à fleur de peau dès qu'on touche à la dignité de l'homme. C'est peut-être ça qui m'a marqué beaucoup.
Oui.
Je ne peux pas supporter de voir un être humain humilié. C'est quelque chose qui me révolte, et ça, je ne le peux pas. Je suis comme Georges, comme Brassens. Je ne pourrai jamais appeler un garçon de ma vie. J'ai toujours appelé un garçon monsieur. Par contre, je n'ai jamais appelé un ministre monsieur le ministre. Je l'ai toujours appelé monsieur aussi, c'est tout.
Lino, à fleur de peau, vous les appelez comment, vous, les ministres?
Monsieur le ministre.
Monsieur le ministre, ouais. Je ne peux pas supporter de voir un être humain humilié, disait Lino Ventura.
Il a raison.
Ça vous rapproche, hein?
Oui, complètement.
Et ça se manifeste comment chez vous?
De la même façon.
Ouais.
De la même façon. On a essayé, vous savez, on essaye de... Quand j'étais président de l'UEFA ou vice-président de la FIFA, on essaye de trouver des choses pour combattre le racisme. C'est compliqué. C'est pas parce qu'on va priver un mec de stade qui va plus être raciste.
Ouais.
Je pense qu'on essaye de se donner bonne conscience dans le sport en faisant des nos racistes, tout ça, mais on peut pas faire autrement. Mais ça change pas grand-chose, parce que les gens racistes sont toujours racistes.
Donc c'est un combat perdu d'avance, le combat contre le racisme dans le foot?
Non, c'est pas perdu d'avance, c'est perdu d'avance pour le stade, pour les faire des slogans de racistes, non. Mais après, c'est pas perdu d'avance si c'est bien pris au départ, éducation dans les familles et à l'école. Je pense que c'est là que ça se joue pas dans les stades ou ailleurs.
Donc en fait, la question, c'est pas savoir s'il y a du racisme dans le football.
Il y a du racisme dans le football, forcément, il y en a.
Ouais.
Il y en a.
Entre les spectateurs et les joueurs, ou même entre les joueurs?
Parce qu'un footballeur, les gens, enfin, le spectateur surtout. Entre les joueurs, non. Entre les joueurs, j'ai jamais connu.
Ouais. Vous avez jamais connu de racisme, vous? Vous avez jamais été confronté?
Non, parce qu'en Italie où je, à Jeuf, où je suis, dans les usines, les mines, c'est beaucoup d'Italiens.
Ouais.
Et le sport que je jouais, c'était un sport, les immigrés italiens, espagnols, polonais, etc. Donc on va pas s'insulter entre nous.
Ouais. À Jeuf, il y avait beaucoup d'Italiens.
Oui.
Vous, d'origine italienne, vous ne parliez pas un mot d'italien, mais vous partez à la Juve, vous allez jouer pendant 5 ans, la Juventus Turin. Quel rapport vous avez eu à l'Italie, à vos racines italiennes?
Magnifique. Ouais. Magnifique. Mais peut-être parce que j'ai marqué des buts. Hein. Je pense que si j'ai pas marqué de buts, j'aurais eu un rapport complètement différent.
C'est vrai.
Ben oui, à l'Italia, c'est des supporters. Et si vous faites gagner votre équipe, vous êtes le roi. Si vous n'êtes pas gagné votre équipe, vaut mieux prendre la voiture et repartir à la douane.
Platini, c'est Nureyev, disait Agnelli, ouais, le président de... Ça veut dire quoi, Platini, c'est Nureyev?
Je sais pas.
Vous aimez pas les compliments, hein, quand on dit...
Ben, je sais pas, j'ai pas vu danser Nureyev, je peux pas vous dire si je suis Nureyev.
Vous avez déjà vu Platini jouer?
Oui.
Vous savez à quoi ça ressemble?
Oui.
Ouais.
Je sais pas, c'est lui, l'avocat, c'est lui qui m'a voulu. Je pense que je lui ai donné
C'est son surnom, hein, l'avocato.
Oh, l'avocato. Je pense que je lui ai donné une grande fierté en ayant été 3 fois meilleur buteur et tout ça. Et donc, je pense que pour lui, pour un Italien, de dire c'est moi qui ai pris Platini, c'était un moment de petite gloriole, quoi. Il en était content, il était fier.
Ouais. Et on revient au gamin de Jeuf, là, contre sa porte de garage, triompher comme ça en Italie, la patrie des racines, en fait.
Oui.
Ça a joué ou non? Vous étiez là, vous jouiez votre match, vous marquiez votre but et vous rentriez chez vous.
C'était compliqué. Un journaliste italien qui s'appelait Gianni Brera, qui est un grand journaliste italien, avait dit Platini, il est bizarre, il est français en Italie et italien en France.
Et vous vous sentiez comment?
Français en Italie et italien en France. Non, je me sens un Français du monde, moi.
Un Français du monde.
Ouais, un Français du monde. J'ai fait tellement de choses. J'étais dans tellement de pays. J'étais l'ambassadeur de beaucoup de choses. J'ai toujours été représentatif de la France. J'ai toujours donné tout ce que je voulais. C'est pour ça que je suis revenu habiter en France. Ouais.
Michel Platini, on vous a demandé de choisir un disque et vous avez dit, j'aurais bien écouté du Sardou. Alors pourquoi Sardou, déjà?
J'aime beaucoup Michel Sardou.
Vous connaissez?
Pas du tout.
Non?
Non. Je suis allé plusieurs fois le voir en concert, mais j'ai beaucoup aimé lui et Balavoine, parce que c'est des gens qui exprimaient des choses, qui disaient des choses. Bougon, râleur, un peu comme moi. Quoi,
un peu Platini, oui.
Peut-être, ouais. Bougon, râleur, je pense avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de choses derrière, mais et voilà, j'ai toujours aimé un peu. Il disait des choses que je partageais, etc. Mais c'était des chansons des années 70, 80, quoi. J'ai
vous
beaucoup
êtes,
aimé.
Vous êtes un ultra sensible ou pas?
D'une certaine façon, oui.
Ça vous embête de le dire?
Oui, parce que quand vous devez amener votre équipe à gagner, quand vous êtes président d'une institution, quand vous gérez des hommes, quand vous avez des trucs, ben là, si vous êtes un peu trop sensible, c'est un peu plus compliqué. Donc vous vous durcissez à certains points, à certains moments, et puis vous êtes, vous devenez comme ça à l'arrivée. Donc il faut que votre famille, votre monde familial vous ramène à une certaine sensibilité, à la normalité, parce que vous avez tendance à vous enflammer. Vous vivez dans les riches, avec les riches, dans les avions privés, dans les grandes suites, etc. Puis à un moment, c'est bien de retomber dans la normalité.
Il y a un risque avec les gens. De péter les plombs, ou à un moment, vous êtes vu trop beau, vous, ou pas?
Moi, je pouvais les, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on peut les péter à 17, 18 ans, les joueurs. Mais on est vite ramené à la réalité.
Ouais.
En revanche, il y a beaucoup de gens, des politiques, des grands dirigeants, qui pètent les plombs à 40 ans, parce que c'est à 40 ans qu'ils commencent à être connus.
Ouais.
Nous, les footballeurs, on est connus à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Donc c'est un peu plus, c'est précoce et on peut mieux se préparer pour la suite.
Alors, à propos de Sardou, on a choisi Le Fauteuil, chanson dans laquelle Michel Sardou parle de son père.
Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour. Il était là dans ce fauteuil, premier témoin de mes faux pas, le cœur tremblant comme une feuille, croyant que je ne savais pas. Il était là sur ma galère, lieutenant de la Providence, m'envoyant des ondes légères comme le ciel de sa province. Il était là dans ce fauteuil qu'il a loué pour l'éternité, pour m'applaudir du coin de l'œil et de temps en temps rigoler. Petit, tu m'as fait bien plaisir, tu m'as rappelé ton grand-père. Entre ses larmes et son sourire, il n'y avait pas de frontière. Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour. Dans le halo du projecteur, il vient s'installer tous les soirs, comme tout autre spectateur, mais je suis le seul à le voir.
Il était là dans ce fauteuil, mon spectateur du premier jour, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour.
C'est des belles paroles, ça correspond pas trop à mon père. Ça correspond à mon père, mais pas aussi facilement que ça, dans la mesure où mon papa donnait ça à... Il était entraîneur à Jeuf, et donnait ça à tous les gamins de Jeuf. Pas plus à moi qu'aux autres. Il s'occupait de tout le monde. Il partait le mardi, le mercredi, le jeudi, le samedi, le dimanche. Il amenait les gamins au foot, il les ramenait. Mon papa, il était extraordinaire dans la vie de Jeuf et dans ma vie aussi. Mais il me donnait beaucoup d'amour et d'affection, mais il en donnait aussi à tout le monde. Et Jeuf, c'était quelqu'un de très, très, très important. Il a donné une passion à des milliers de gamins à Jeuf. Il a donné une façon de vivre, un changement de vie. C'est pour ça que je l'adore.
Ouais.
Ma maman, elle me donnait le bien et le mal. Elle était plutôt catéchèse, et
Anna,
donc j'ai vécu dans le bien et le mal. Elle me disait le bien et le mal, le destin, la fatalité, toutes ces choses-là, elle était plus là-dedans. Et mon papa, c'est plus les copains, la vie, la liberté, amusez-vous, profitez, etc.
Donc
très complémentaire, et je pense que j'ai pris des deux.
Vous étiez ému en écoutant la chanson, pourtant, je vous ai vu.
Oui, on pense, bien sûr, mon papa est parti, donc... Ça fait toujours, on a une petite larme à l'œil, on pense à ces choses-là.
Vous pensez que vous avez réalisé son rêve avec votre carrière, avec ce que vous êtes devenu?
Ils m'ont jamais dit.
Mais jamais.
Je pense que d'après ma sœur ou d'après tout ça, je pense qu'ils étaient très 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 fiers.
Et du coup, vous parlez à vos enfants, vous dites à vos enfants, ou vous êtes taiseux comme étaient Aldo et Anna avec vous?
Ben, pour mon fils, ça a été compliqué qu'il joue au football, parce que c'est être le fils d'eux, c'est très très compliqué. Mais moi, je l'aurais amené dans les valeurs avec mon épouse, les valeurs comme vous faites avec vos enfants, je pense.
Comment la famille, votre famille, a vécu le succès de l'homme, du fils, du mari?
C'est compliqué d'être la femme de quelqu'un de connu, ou les enfants de quelqu'un de connu. Très compliqué. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Quand mon fils, il allait à l'école en Italie, et qui disait, mais Platini, bidon, c'est Maradona qui est le meilleur. Vous savez, les rivalités de gamins, les enfants sont ingrats, vous le savez. Et donc, voilà, mais ça les a durcis, ça les a préparés à la vie, ce qui était bien. Et ils m'en veulent pas d'avoir été un bon footballeur.
Michel Platini, parmi les hommes qui ont compté sur le banc de touche, il y a Michel Hidalgo. Évidemment, on l'entendait tout à l'heure dans le portrait, sélectionneur de l'équipe de France lors de l'Euro victorieux en 84, mais aussi lors du Mondial 82 en Espagne avec cette fameuse demi-finale France-Séville contre l'Allemagne, perdue au pénalty. Michel Hidalgo disait, même 35 ans après, on peut pas guérir de Séville. Et vous, est-ce que vous avez guéri de ce match?
Oui, bien sûr. Et Michel Hidalgo a été quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui a fait énormément de bien au football français. Je pense qu'il est un peu plus sensible que nous, et lui a vécu là-dessus quelque chose de grave. Moi, j'ai trouvé que c'était un match exceptionnel, où on a eu des émotions exceptionnelles, où on a donné des émotions exceptionnelles. Et vivre avec les émotions, je pense que c'est quelque chose de fantastique. Et je souhaite à tout le monde de vivre les émotions. Je pense que c'est...
Mais vous êtes le seul à être remis de ce match, parce qu'on n'en parle... Même quand on gagne la Coupe du Monde aujourd'hui, on nous ressort Séville.
Oui, mais moi, j'ai vécu un moment exceptionnel. Je suis désolé, je suis comme ça.
Donc c'est un bon souvenir.
C'est un mauvais résultat. Mais c'est un moment que j'ai vécu, et qui était où on a vécu des émotions que... Nul livre, nul film, nulle pièce de théâtre ne pourra nous donner. On a vécu un moment d'anthologie pendant une heure et demie. On a perdu, certes. Mais voilà, moi j'ai vécu un moment...
Vous êtes content d'avoir vécu, malgré tout?
Ah ben, bien sûr, je l'ai vécu. Vous savez, on a une carrière, on gagne, on perd, on fait imaginer, on ne peut pas toujours gagner. Hein. Donc on a perdu ce match-là. On aurait peut-être pas dû le gagner, je sais pas, c'était équilibré. Donc bon, ça s'est passé là, sur des erreurs d'arbitrage, l'injustice, mais bon, c'est comme ça.
C'est l'humain. Il y a eu Séville, et puis il y a eu l'ESL.
Effectivement, un flash spécial justifié par les terribles événements qui se sont produits, qui se produisent toujours actuellement à Bruxelles, où des émeutes ont fait entre 20, 30 ou 40 morts. On ne sait pas, les chiffres sont fantaisistes. Il y a en tout cas au moins 20 morts. 20 morts, donc, sur le stade. Des émeutes avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions.
À l'horloge du stade, il est 19h25. C'est le début de ces incidents dramatiques. Les supporters de Liverpool, les fameux hooligans, la plupart complètement ivres, attaquent les supporters de la Juventus. Et en quelques secondes, tout bascule et c'est l'horreur. Des centaines et des centaines de personnes entassées les unes sur les autres. Le petit mur de la tribune nord s'effondre. Les victimes sont en dessous.
On est le 29 mai 1985, avant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions entre Liverpool et la Juve Turin, dans laquelle vous jouez. Des hooligans anglais attaquent les supporters italiens. Ça tourne au drame. Il y aura ce soir-là, dans le stade bruxellois, 39 morts et plus de 400 blessés. Et pourtant, ce match, il va se jouer. L'UEFA décide qu'il faut qu'il se joue. Vous allez marquer, vous, le seul but de la rencontre sur pénalty. Vous allez célébrer ce but comme si de rien n'était. Vous remportez cette Coupe d'Europe des clubs champions, comme on l'appelait à l'époque. Comment on peut jouer au foot après un drame pareil?
Heureusement qu'on a joué au foot. Sinon, le drame aurait été beau, aurait été pire. Parce que moi, je suis allé sur le terrain avant le match pour calmer les supporters italiens. S'ils savaient qu'il y a eu 35 morts, je pense que ça partait de partout. Mmh. Il fallait absolument jouer pour que les forces de police puissent protéger les spectateurs qui étaient dans le stade.
Et comment vous l'avez vécu, ce match? Pendant le match comme un autre.
Pendant le match, nous, on n'a rien vu. Vous savez, nous, on était dans les vestiaires, on n'a rien vu. On nous a dit, il y a des incidents dehors, on savait pas. Donc, on a joué le match, on a fait un vrai match de football contre une vraie équipe de Liverpool qui a joué pour gagner, et nous, on a joué pour gagner, on ne savait pas. Après, on n'était pas bien. Hein. Sincèrement, on n'était pas bien.
Ça veut dire quoi, pas être bien? Vous avez eu honte ou pas de...
Non, parce que je pense qu'il fallait jouer. D'ailleurs, j'y pense souvent quand j'étais président de l'UEFA, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? J'y pensais souvent. Ouais. Mais il fallait jouer. Il fallait absolument jouer pour protéger d'autres vies. On n'en était pas bien. Je veux dire, vous savez, quand vous pensez qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont peut-être venues à Bruxelles pour me voir jouer et puis qui rentrent pas chez eux, c'est compliqué. C'est très, très compliqué dans sa tête. D'ailleurs, j'ai arrêté 2 ans après de jouer au football. Hein,
c'était un tournant,
ans.
Ça a été un déclencheur de cette volonté d'arrêter.
C'est compliqué, je vous dis. Moi, je joue pour le football pour voir des gens mourir dans les stades. Ouais. Dans les stades, c'est compliqué, c'est très compliqué.
Mais c'est à partir de là que vous avez dit stop.
partir de cela, j'ai commencé, en plus j'étais blessé après, j'ai commencé à dire un peu stop.
Du coup, vous prenez votre retraite assez jeune, hein, avant 32 ans, ouais. Vous raccrochez les crampons. Et vous avez voulu faire de la politique en prenant la tête de l'UEFA, l'instance qui dirige le foot européen.
Oh, pas tout de suite, pas tout
de suite. Ça vient après. Oui, il y a l'équipe de France.
Il y a, il y a l'organisation de la Coupe du Monde d'abord.
Absolument.
Hein, et l'organisation de la Coupe du Monde. Pendant 6 ans, j'ai été président, co-président du comité d'organisation.
Il y a beaucoup d'étapes, mais sinon, on va y être jusqu'à demain. Donc
oui, on va y être jusqu'à demain. Excusez-moi. Excusez-moi si je suis un vieux monsieur aujourd'hui.
Donc vous prenez la tête de l'UEFA que vous dirigez, puis vous visez la FIFA, autrement dit la présidence du foot mondial. Ouais. Sauf que là, vous vous retrouvez à glisser sur des pots de bananes.
Là, c'est I comme Icar, là. Les ailes commencent à brûler, là.
Ouais. On vous accuse d'avoir touché de l'argent indûment. Il y a des procédures qui n'en finissent pas.
Ouais.
Ça vous a d'ailleurs valu d'être suspendu pendant 4 ans de toute activité liée au foot.
C'était le but du jeu. Ouais. Il fallait me suspendre.
Mais ça a une conséquence humaine, affective, lourde. Pour vous, vous êtes privé de l'Euro 2016 en France.
Oui.
Celui que vous aviez monté de toutes pièces.
Oui, Jacques Lambert, oui.
On vous a pas vu dans aucun stade.
Non.
Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Michel Hidalgo toujours, c'était en 2016, après la victoire en demi-finale au Vélodrome contre l'Allemagne, la France se qualifie alors pour la finale, et il parle de vous, Michel Hidalgo.
Michel Platini, je l'ai eu, il avait 18 ans, et il était heureux de jouer, il était heureux d'être avec les autres, il était heureux de marquer des buts, il était heureux de faire marquer les autres, il avait tout pour plaire, et pour faire une carrière. La carrière, il l'a faite. Il a donné au football français des points, des matchs et autres. Et on lui fait ça maintenant, on le met en dehors de tout. C'est scandaleux. Faire ce qu'on fait à Michel Platini, c'est un massacre.
Faire ce qu'on fait à Michel Platini et ce qu'on a fait à Michel Platini, c'est un massacre. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous avez raté dans cette carrière politique, entre guillemets?
Rien, j'ai rien raté. Mais quand il y a des événements ou des éléments extérieurs qui vous barrent le passage, vous pouvez rien.
Ouais.
Quand vous avez une collusion entre la FIFA et la justice suisse, c'est difficile de gagner parce que la justice suisse porte plainte et puis la FIFA me suspend et on n'a toujours pas de procès de la justice suisse. Bon.
Est-ce que vous avez raté, c'est que vous vous êtes retrouvé criblé de balles?
Oui, je sais pas ce que j'ai raté, mais peut-être qu'il y a des gens qui me voulaient pas à la tête de la présidence de la FIFA et puis qui m'ont fait du mal, c'est tout.
Et que certains puissent penser aujourd'hui, vous parlez de votre rapport avec les gens qui viennent vous voir dans la rue, etc. Puissent penser Platini, il est peut-être
plus.
Malhonnête
il
ou
le
machin.
Il ne pense plus. On a expliqué, on a dit j'ai fait un bouquin. Il ne le pense plus.
Ouais.
Non.
Vous êtes blessé par ça au début.
C'était compliqué 15 jours, le temps de comprendre. Puis après, vous faites le plus beau combat du monde.
Ouais.
Le plus beau combat du monde, c'est contre l'injustice. Donc je me bats contre l'injustice, point final. Après, tout ce monde-là, ça va.
J'ai l'impression que vous remettez votre carapace, là.
Non, mais... C'est pas fondamental, c'est pas très important. Moi, je l'ai fait ma vie.
Bah si, quand on n'a rien fait et qu'on est accusé
très...
comme ça par la presse mondiale, on doit pas le vivre forcément très bien.
Alors ça, c'est autre chose. Il y a un procès médiatique qui est terrible. Il y a des journalistes bienveillants et des journalistes malveillants. Les journalistes bienveillants disent les choses correctement, les journalistes malveillants ne le disent pas correctement. Mais ça me perturbe pas, ça.
Ouais.
Je vous ai dit, le plus beau combat, c'est contre la justice et j'essaye de le gagner. Maintenant, les gens, ils sont au courant de mon affaire, ils connaissent tout, ils savent tout, ils savent que je suis tranquille et j'ai pas de souci.
C'est une blessure.
Une blessure. C'était dur 15 jours d'essayer de comprendre. Au bout de 15 jours, j'ai compris que voilà, ils voulaient me virer de la FIFA. Puis voilà.
Après,
j'ai la justice contre moi, mais quand vous avez la justice suisse et la FIFA, avec tout l'argent qu'ils ont pour me tuer, c'est un peu plus compliqué.
Quand vous vous retrouvez dans une cellule de garde à vue entre deux interrogatoires, il se passe quoi? Vous dites quoi? Vous avez envie de pleurer? Vous avez tout défoncé? Vous dites je suis pas à ma place? Vous dites la vérité va triompher? Il y a quand même un moment où...
Je réponds aux questions. Si les gens ils pensent que... Enfin, si le procureur ils pense que... ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est pas la Suisse, ça c'est la France. Hein.
Ouais.
Hein, donc la France ils pensent que j'ai touché des milliards de dollars du Qatar ou de Sarkozy ou des Picasso de Poutine. Ils peuvent le penser, qu'ils cherchent. De toute façon ils trouveront rien, donc il y a rien. Alors voilà. Mais moi je suis tranquille. Je m'invente pas des idées, je m'invente pas des réponses. Je dis la vérité. La vérité, j'ai aucun souci.
Il n'y a jamais eu aucune ivresse du pouvoir chez vous? Vous dites pas peut-être
je
que...
pense qu'on a tous une ivresse du pouvoir, tous les niveaux.
Et si c'était à refaire?
Si c'était à refaire, bah j'écouterais ma famille et mes amis qui disaient surtout t'y vas pas à la FIFA parce que c'est pas intéressant, t'es bien à l'UEFA et vas-y. Mais je me suis laissé enflammer et emballer par toutes les associations dans le monde qui voulaient que je vienne comme président pour les aider. Puis après, la FIFA a un avantage, c'est elle qui avec l'International Board, qui gère les lois du jeu. Ça m'intéresse. Le reste, c'est de la politique, de l'argent, de serrer des mains et...
Vous irez plus là-dedans.
De serrer des mains et de prendre des couteaux dans le dos.
Ouais. Vous irez plus dans tout ça? Non. Il n'y a pas une revanche à prendre? Non, je vais y aller, je vais leur montrer.
J'ai aucune... Vous savez, quand on parlait de moi à la FIFA, je vous l'ai dit, un jour j'étais, ça m'intéressait, le lendemain j'étais plus intéressé, un jour j'étais intéressé. Donc j'étais pas convaincu. Donc aujourd'hui non. C'est pas un truc, non.
De quoi avez-vous envie aujourd'hui, Michel Platini?
Écoutez, j'ai envie de me rapprocher des joueurs. Si je dois faire quelque chose pour le football, c'est avec les joueurs. Donc, il y a de la politique, bien sûr, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi...
Vous savez quoi, diriger une fédération, être sélectionneur, ça c'est fini, diriger un club, ça non?
Oui, pour l'instant, j'ai pas d'envie bien précise. Ouais. Ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'être utile au football.
Comment?
À travers les joueurs, à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les joueurs. Comme vous le savez, je pense que les gens qui gèrent le football aujourd'hui ne sont pas des joueurs.
Donc il faut rendre le pouvoir aux joueurs,
trouver la façon de le rendre. Vous savez, le président de l'UEFA aujourd'hui, c'est un pénaliste, le président de l'UEFA, c'est un avocat, le Blatter est un saltabanque, l'avant, c'est Avalanche qui était un arbitre de waterpolo, donc c'est des gens qui ont rien à voir avec le foot, qui rentrent dans le foot, parce que je pense que la soupe est intéressante et bonne, mais ça serait bien que ça soit des joueurs qui s'investissent là-dedans. Alors je vais voir comment je peux le faire. En revanche, j'ai une autre chose à faire, et j'ai déjà rencontré la présidente de l'UNESCO, c'est de mettre le football au patrimoine mondial de l'humanité.
Vous voulez que le football entre au patrimoine mondial de l'humanité?
Oui, comme les pizzas, bien sûr, pourquoi pas.
Et pourquoi faire?
Pour que ça soit ça soit un jeu, et que ça reste un jeu, et que ce jeu soit au-dessus de tout ce qui se passe. Vous savez, si on va dans la cour d'à côté, là, dans la cour de récréation qu'il y a ici, on fait un contre un, on met des pierres de chaque côté, et puis on fait un petit match de football, c'est du football. Et c'est pas géré par une institution, c'est pas pour ça que vous êtes membre de la FIFA. Mais c'est ça le football. Donc le football, c'est une flamme, c'est un jeu, c'est une passion, et je veux qu'il soit reconnu comme cela par l'UNESCO.
L'esprit du foot gravé à l'UNESCO.
Voilà. C'est votre... L'esprit du foot, tout à fait. Ouais. Pas les institutions, pas les trucs, mais l'esprit du foot.
Et vous en êtes toutes, vous dites que vous avez rencontré
Madame Azoulay, oui, et on est en train de travailler là-dessus.
Et vous investirez dans ce projet?
Oui. Faut que j'avance, mais ces derniers temps, j'ai eu un peu de déménagement, les trucs à faire. Partir de la Suisse en France, les papiers, c'est pas facile.
Et elle vous a dit quoi, Audrey?
Oui, qu'elle était très intéressée. Oui.
Donc, on peut penser que le foot va rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO?
J'espère.
Ouais. Quand?
Quand je m'en occuperai correctement.
Bon, ça dépend de vous.
Non, ça dépend d'eux, mais bon, il faut que je trouve les moyens, parce que c'est des décisions présidentielles. Il faut qu'il y ait des présidents de la République qui le portent, et donc il faut que je voyage, il faut que je bouge. Mais je veux que...
Mais vous ferez campagne pour ça?
Si je pense que c'est une chance de réussir, je le fais. Et c'est important que ça soit un joueur ou des joueurs qui le fassent.
Michel Platini.
Ou vous qui tapez dans un ballon. Vous êtes un joueur quand même.
Vous m'avez jamais vu jouer taper dans un ballon.
Non, mais bon, j'imagine.
C'est pire que ce que vous imaginez. Michel Platini, je vais bientôt vous laisser tranquille, mais quand même, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé. Est-ce que vous savez qui c'est? Une personne, une femme?
Non, je...
Christelle, votre épouse.
Oui.
Ouais. Oui. Christelle, avec qui vous êtes marié depuis combien de temps?
77.
1977. Quel rôle elle joue dans votre vie?
Oh là là, de stabilisateur. Ouais. Oui. D'intelligence. Moi, je pense que si j'avais pas rencontré mon épouse, je serais peut-être un clodo, mal habillé, avec une cigarette au bec, en train de taper le carton dans un troquet. Je pense, oui, comme tous les gens de ma génération. Et elle m'a donné tout ce que je peux rêver d'avoir, tout. Ouais.
C'est elle la numéro 10 dans l'équipe Platini, la meneuse de jeu?
Numéro 1.
Numéro 1?
Oui.
C'est la patronne?
Oui. Ouais. Non, c'est pas la patronne, elle veut pas être la patronne, mais c'est mon étoile.
Christelle, elle vous aime, elle aime Michel Platini, et vous l'aimez comment, Michel Platini?
Bon, je pense que pour faire ce que j'ai fait dans ma vie, il faut être un peu narcissique, je pense. Hein.
Ouais.
Comme tous les gens qui ont des ambitions, qui veulent avoir des responsabilités, qui aiment répondre aux questions, qui aiment passer à la télévision, je crois qu'à un moment, il faut s'aimer un peu pour pouvoir réussir.
Quand vous rasez le matin, donc vous pensez plus à la présidente de la FIFA, mais vous dites, waouh, c'est Platini en face de moi?
Non, je vais dire, quelle connerie je peux faire aujourd'hui avec mes copains? C'est ça que je me pose comme question. J'ai été élevé dans le groupe, dans l'amitié, dans les amis, de gagner ensemble, de perdre ensemble, de boire un coup ensemble. Bon, aujourd'hui, on joue plus au foot, on fait autre chose. Mais voilà, c'est ça mon but, et de bien vivre. J'ai eu une chance énorme. énorme, c'est que j'ai fini de gagner beaucoup ma vie quand tous les gens du monde commencent à la gagner. Ouais. Donc j'ai pu vivre en me faisant plaisir, et en faisant plaisir aux miens. Voilà, ça c'est la chance la plus belle de ma vie.
Vous êtes à Cassis, on va terminer cet entretien. Il y a l'OM qui est pas loin là. Il n'y aurait pas un petit coup de main donné à l'OM de la part de Michel Platini ?
Ils n'ont peut-être pas besoin de moi.
Et s'ils avaient besoin de vous, s'ils vous appelaient ?
C'est compliqué d'aller dans un club. Je l'aurais fait il y a longtemps, mais j'étais vice-président de l'Essence-Lorraine déjà, hein, dans les années 90. C'est compliqué. Vous savez, je voulais pas être entraîneur. Je voulais pas avoir une vie tous les jours du football. J'ai été sélectionneur parce qu'on m'a demandé de l'être et je ne pouvais pas refuser. Mais d'être tous les jours, repartir, revoir les matchs tous les soirs, rentrer à 2h du matin, le mercredi, le samedi, 2 fois par semaine, non. Quand j'ai arrêté le football, je voulais plus recommencer cette vie-là. Et donc c'est pour ça que je suis rentré dans la politique. Je me suis fait plaisir.
Merci beaucoup Michel Platini de nous avoir fait plaisir et d'avoir passé une heure de hors-piste avec nous. Merci également à Marie Mairie à la réalisation, Claire Tesser à la mémoire vive, Charlotte Leloup à la préparation et Lucien Lefebvre aux manettes. Je vous dis à dimanche prochain avec Laurent Berger. Mais Michel Platini dans hors-piste, le dernier mot revient toujours à l'invité, à vous donc.
Eh ben, bon retour.
C'est court.
Oui, mais ça suffit.
Vous n'aimez pas les derniers mots ?
Non, j'aime pas les derniers mots. Vous avez qu'à poser les questions avant.
Merci beaucoup Michel Platini.